L'Union européenne fait sa révolution verte. Ça a été l'actualité majeure de la semaine à Bruxelles. La Commission européenne a dévoilé mercredi son plan pour décarboner l'économie chez les 27 États membres pour lutter contre le dérèglement climatique. Et pour en parler ce matin, donc, Philippe Lambert est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Eurodéputé belge, écologiste, vous co-présidez le groupe des Verts au Parlement. Mais avant de vous interroger sur les solutions, je voudrais vous entendre sur des illustrations de ce dérèglement climatique, des pluies diluviennes et des inondations meurtrières. Plus de 80 morts dans l'ouest de l'Allemagne, des centaines de disparus, au moins 9 morts en Belgique. Vous y voyez un signe de l'urgence climatique ?
Ben, je crois que ne pas le voir, c'est être aveugle et sourd. Les scientifiques du GIEC nous annoncent depuis plus d'une décennie maintenant une abondance d'événements extrêmes, sécheresse extrême, précipitation extrême, vent extrême. Et il n'y a pas de raison que l'Europe soit isolée ou protégée de ce genre de phénomène. Et c'est ce que nous observons maintenant en Belgique, en Allemagne, au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà. L'an dernier, c'était plutôt une grosse sécheresse. Cette année-ci, ce sont des précipitations abondantes.
Alors venons-en au plan européen dévoilé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le principe général, c'est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, en faisant davantage payer le prix de la pollution, c'est ça ?
Oui, c'est ça l'idée. Le but, c'est d'influer sur les comportements. Le problème, c'est que la cible choisie n'est peut-être pas la bonne. Autrement dit, vous pouvez, et Dominique Seul comprendra très bien, soit exercer la pression primaire sur le consommateur, et c'est ce qui est fait par les propositions de la Commission lorsqu'on étend le marché de droits d'émission à des secteurs très grand public comme le transport ou le bâtiment. Ou au contraire, on peut choisir d'appliquer la pression première sur l'offre, c'est-à-dire sur les entreprises, de manière à ce qu'elles modifient leur offre. Et ça, c'est notre préférence. On a vu que lorsque c'est le consommateur qui a la cible première, eh bien, on risque d'avoir des phénomènes comme les gilets jaunes, et je les comprends tout à fait. Au contraire, lorsque on applique la pression d'abord sur l'offre, eh bien, la première chose qui se passe, c'est que les profits des entreprises sont détournés vers l'innovation. Autrement dit, au lieu de distribuer des dividendes ou des salaires mirobolants, les entreprises sont obligées d'investir massivement pour transformer leur offre, et c'est l'option qui a notre préférence.
Alors par exemple, il y a quand même une taxe inédite qui a été décidée sur le kérosène aérien. Là, ça va peser sur le secteur aérien.
Eh bien oui, je pense que c'est le minimum de ce qu'on pouvait faire. Il est absolument anormal que le transport de surface, en particulier le train, soit taxé alors que l'avion ne l'est pas. Et donc on se retrouve avec des aberrations qui nous font voir que finalement aller à Barcelone en avion, c'est bien meilleur marché que d'y aller en train. Et beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas ces différences de prix et la mise en place très progressive, hein, je vous rassure, parce que on parle d'une période de transition de plus de 10 ans, d'une taxation du kérosène pourrait redresser progressivement la balance. On aurait là-dessus dû être beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus rapide, mais comme vous le savez, les oppositions aux mesures de la Commission se manifestaient déjà avant qu'elles soient prises, et elles se manifestent aujourd'hui dans toute leur ampleur.
Philippe Lambert, il y a quand même une mesure très marquante pour les consommateurs, les automobilistes surtout, c'est la fin des voitures à essence, diesel et hybrides. Elles seront interdites à partir de 2035. Ça, c'est ambitieux quand même.
Oui, tout à fait. Et là, je me réjouis que la commission von der Leyen, et particulièrement sa présidente, ait résisté aux pressions ici franco-allemandes de reporter cette mesure à 2040. Je pense qu'il est plus que temps qu'on électrifie notre mobilité. Alors, les puristes nous diront que tout dépend comment l'électricité est produite. Bien entendu, c'est évident que des voitures électriques motorisées par des centrales électriques au charbon, ça n'est pas écolo. Mais rien ne nous empêche de faire plusieurs choses à la fois. Je crois que Emmanuel Macron a fait du à la fois sa règle d'or. Je pense qu'on doit être capable de faire ça au niveau européen.
En France, ça pose des questions quand même sur l'emploi. Selon François Roudier, le porte-parole de la plateforme automobile, ça menace 150 000 emplois en France dans le secteur automobile.
Bien sûr, je comprends tout à fait, mais que répondre à cela ? Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir un système qui, à terme, rend la planète inhabitable pour l'homme au nombre de l'emploi ? Je vais dire, la question de l'emploi ne se posera plus lorsque l'humanité n'aura plus sa place sur cette planète. Et donc, il faut se rappeler, et la pandémie nous l'a rappelé, que l'économie est au service de la vie et des humains, et pas l'inverse. Autrement dit, si la planète est inhabitable pour les humains, il n'y aura plus d'économie. Et donc, il faut mettre l'économie au service de notre maintien sur cette planète.
Philippe Lambert, si vous commenciez à l'évoquer il y a un instant, c'est cette réforme cruciale dans ce plan du marché du carbone. Et c'est l'extension de ce qu'on appelle donc l'ETS, le marché du carbone, au carburant et au transport, et donc au chauffage des bâtiments. Là, effectivement, ça va peser sur le budget des ménages, et notamment des ménages les plus modestes.
Tout à fait. Et donc la réponse de la Commission européenne à cela est de consacrer une partie, et une partie seulement, des recettes du marché carbone à une compensation sociale, autrement dit à des subventions directes aux personnes les plus touchées ou les plus précarisées.
Un mécanisme
pour nous,
d'aide,
c'est une réponse qui a...
oui. de 70 milliards
oui,
d'euros
ce sont
sur
des aides,
10 ans.
Mais qui, à mon avis, seront insuffisantes.
70 milliards, c'est insuffisant, ouais.
Oui, de toute manière, c'est insuffisant. Je vous rappelle que l'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. Et en fait, le vrai levier, la vraie réponse à l'augmentation des prix des carburants serait une réforme fiscale profonde. Autrement dit, une transformation de la fiscalité des revenus. Mais ça, ce sont des leviers qui sont aux mains de chaque État membre. Et donc, la Commission européenne n'a pas barre là-dessus. Et donc, c'est là que nous avons vraiment nos doutes quant à l'extension du marché carbone comme la meilleure mesure pour atteindre les objectifs que nous voulons atteindre.
Et justement, oui, le risque, c'est peut-être une nouvelle révolte des gilets jaunes, une gilet jaunisation dans d'autres États membres, c'est ce que vous craignez ?
C'est un risque et vous savez, ma conviction est qu'il n'y aura pas de transition écologique si ce n'est pas une transition juste. Autrement dit, la question sociale est indissolublement liée à la question écologique et donc le problème ici, c'est que, si vous voulez, les leviers écologiques sont plutôt au niveau européen, les leviers sociaux sont plutôt au niveau national. Et je ne vois pas, en tout cas aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vraiment articuler de manière robuste une politique à l'autre.
Ces mesures, elles doivent être approuvées maintenant par les 27 États membres et par le Parlement européen. Beaucoup d'eurodéputés sont contre justement cette réforme du marché carbone. Et puis ça tombe assez mal, notamment en France. On va être en campagne présidentielle, en Allemagne, en campagne législative. Tout ça va être gêné par le contexte politique dans différents pays, peut-être.
Mais j'ai l'impression inverse. Le fait que nous avons des campagnes électorales dans des grands États membres, quelque part, aide à placer ce débat au cœur du débat démocratique. Et je pense que c'est une bonne chose. Autrement dit, il faut que nos concitoyens, finalement, soient capables de s'exprimer sur les solutions qu'ils souhaitent. Et là, je pense qu'il y a des clivages très nets entre les différentes forces politiques quant aux solutions et aux positions à prendre par rapport aux propositions faites par la Commission européenne. Et donc, pour moi, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Ça politise le débat au sens noble du terme.
Merci beaucoup Philippe Lambert, co-président du groupe des Verts au Parlement européen. Pardon pour ce petit bug technique. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de France Inter. France Inter.